Renversée sur le rocher, Modesta observe comment ses sens mûris peuvent contenir, sans fragile peur d'enfance, tout l'azur, le vent, l'espace. Étonnée, elle découvre la signification du savoir que son corps a su conquérir dans ce long, ce bref trajet de ses 50 ans. C'est comme une seconde jeunesse, avec en plus la conscience précise d'être jeune, la conscience des manières de jouir, toucher, regarder. 50 ans, âge d'or des découvertes. 50 ans, âge heureux, injustement calomnié par l'état civil et les poètes. Comment rendre cet après-midi d'été étendu sur le roc, effleuré par les dernières caresses du soleil qui tombe? Comment redire la joie de cette découverte? Comment la raconter aux autres? Comment communiquer le bonheur de chaque acte simple, de chaque pas, de chaque rencontre nouvelle, de visage, de livre, de crépuscule et d'aube et d'après-midi du dimanche sur les plages ensoleillées?
Heureuse es-tu, grand-mère, je t'envie. J'ai découvert que l'envie est une bonne attitude pour vouloir les choses. Moi, en t'enviant, j'essaie de t'imiter et peut-être un jour serai-je comme toi.
Comment raconter la joie d'écouter ce garçon? L'émotion que sa voix communique quand il répète.
Moi, Modesta, tu me permets de t'appeler comme ça? Moi, avec toi, j'ai comme l'impression d'avoir un camarade. Alors, camarade, mon patron de père m'a donné ma paix. On va s'embêter un peu au cinéma? Il faut vraiment que je voie quand la ville dort. Tout le monde en parle. C'est devenu une obligation maintenant, le cinéma. Viens avec moi. De toute façon, ça dure 2 heures et après, on va parler en se promenant. J'ai tant de choses à te dire sur ce Julien que tu m'as fait connaître.
Après le cinéma, il peut arriver qu'on ne parle pas. Ni du film, ni de Julien Sorel, mais qu'on aille chez Nina et qu'on rit, qu'on dîne, et que Carluzzo et Olympia jouent sans fin en se passant la guitare et un verre de vin.
Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h en semaine impair, mais aussi quand vous le décidez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Merci à Delphine Leménère, une Modesta parmi d'autres, de m'avoir accompagné sur la lecture de cet extrait d'un livre culte, ses pages 753 et 754, quand Modesta, devenue grand-mère, apprend à vieillir, à bien vieillir, à ne pas vieillir. Une énième jeunesse pour l'héroïne de L'Art de la Joie, un roman écrit par Goliarda Sapienza dans les années 70 et publié beaucoup plus tard, en France, en 2005, disponible aujourd'hui au Tripode. Il est jeune, lui aussi, de ses 50 ans et quelques. Il est libre, lui aussi, de créer de mille manières, de penser d'autres chemins d'humanité, de partager ce qui l'anime et l'indigne. Je suis très heureux d'accueillir à ce micro Pierre Soletti, poète, musicien et créateur en tout genre, auteur notamment d'un petit livre double sur sa grand-mère qui s'intitule « Illettré littéraire » et « Perpète » paru aux éditions du Pourquoi pas en 2023. Bienvenue Pierre et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci beaucoup.
Alors Pierre, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères?
Adèle pour l'une et Marie-Louise pour l'autre.
Alors Adèle, c'était du côté paternel ou maternel?
Maternel.
Et toi, comment tu les appelais?
Mamé.
Toutes les deux mamé?
Ouais. Dans mon sud-est natal, quasi tout le monde appelle ses grands-parents mamé, papé.
Alors c'est laquelle la mamé du livre dont on parlera un petit peu après?
C'est ma grand-mère maternelle, c'est Adèle.
C'est Adèle, d'accord. Ouais. Et alors pour commencer un peu par Marie-Louise, donc Marie-Louise, c'était quoi son métier? C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait?
Elle était paysanne d'abord, donc elle travaillait la terre et puis ensuite elle était employée mairie dans les écoles. Donc elle était à la cantine et elle avait un autre boulot qui était de tisser, elle faisait des pulls, des habits. Donc elle avait une machine.
Elle faisait ça chez elle?
Ouais. Donc c'était une grosse machine complexe avec des tas de fils partout et beaucoup de laine, de la laine partout. Et elle faisait des pulls avec différents types de laine. Elle était connaisseuse quoi, là-dedans, elle adorait, elle en parlait beaucoup. Elle faisait des pulls qui grattent beaucoup.
Toi, tu l'as vu sur sa machine, tu te souviens de ces moments-là?
Ah oui, je l'ai beaucoup vu, oui, sur sa machine. Oui, je m'en souviens, oui, c'est... Bah, j'aimais bien parce qu'il y avait un côté très étrange de voir tous ces fils tendus comme une toile d'araignée un peu. Ça passait dans plein de choses. Puis, parce qu'elle tissait, elle avait des points très très différents. Donc elle tissait des choses très fines, donc très serrées. Et puis des choses plus amples, des pulls ouverts, des écharpes, des bonnets, enfin des trucs. Et elle m'a habillé pendant très longtemps et c'était la honte. C'était la honte parce que c'était pas du tout, enfin, c'est gros col roulé, c'était cette mode-là. Mais paraît-il que c'était très beau, mais évidemment, moi, j'avais envie d'autre chose à cette époque-là. Mais comme j'aimais beaucoup ma grand-mère, alors je disais rien. Je disais merci.
T'as jamais découpé les pulls ou perdu les pulls
Jamais découpé les pulls, jamais perdu, et je les ai toujours mis en plus. C'est ça qui est terrible.
À quoi elle ressemblait, Marie-Louise, si tu devais un peu la dessiner, nous la dessiner?
Ah, Marie-Louise, physiquement, tu veux dire?
Oui, c'est ça. Quelle était son allure, son visage, ses cheveux, qu'on la voit un petit peu?
Ah, ben, elle était extrêmement belle. Donc, elle avait une photo d'elle quand elle était jeune. C'était une photo artistique. Et où elle était super bien habillée. Elle était en train d'arranger des fleurs. Et bon, ce jour-là, donc, elle m'en avait parlé. Elle s'était particulièrement bien habillée pour la photo, et je pensais qu'elle était comme ça tous les jours, mais c'était une robe qu'on lui avait prêtée pour qu'elle soit très belle. Alors, elle était très mince sur la photo, parce qu'ensuite, c'était une mamie normale, quoi. Elle avait pris le poids des ans très délicatement, quoi, qui s'était déposé. C'était très joli. Mais là, elle était très, très mince, très, très jeune aussi. Alors, je la regardais parce qu'on la reconnaissait. Elle avait gardé les mêmes traits de visage.
C'était elle avant d'être grand-mère, avant d'être ta grand-mère.
C'était elle avant d'être grand-mère, mais c'était elle quand même. Et puis après, elle avait un portrait, parce qu'elle parlait tout le temps de mon grand-père. Mon grand-père était une légende familiale, une grande légende, mais que familiale, hein, je te rassure. Et donc, comme elle l'avait perdu très tôt, elle en parlait. Il s'appelait Pierre Soletti, figure-toi. Donc elle parlait de tous ses exploits, comment il était extraordinaire. Alors bon, je me disais, faut vraiment que j'essaie d'être à la hauteur, hein, de Pierre Soletti.
Oui, à porter le même prénom, ça t'a un peu obligé.
Ouais, ça m'a pas obligé. Ouais, un peu inconsciemment peut-être. En tous les cas, je savais que c'était pas possible de l'égaler. Donc, faut se faire une raison. Mais ça me rappelait cette anecdote de Robert Wyatt, qui est un musicien anglais, qui, quand on le croise dans la rue et qu'on lui dit mais vous êtes Robert Wyatt, et lui il dit I used to be Robert Wyatt. J'ai essayé d'être Robert Wyatt. Je pense que c'était une façon très belle de dire qu'il a, parce que c'est quelqu'un d'engagé, tu vois, c'est un communiste dans ce pays que l'on sait, et lui il le revendique. Il a toujours été très très engagé, Robert Wyatt, dans sa musique, dans ses textes. Il fait faire les textes par des poètes, ça veut dire quelque chose, tu vois. Et donc, je pense qu'on n'est pas toujours à la hauteur de soi-même. On essaie, mais on marche en dessous de soi tout le temps. Voilà, on essaie d'être à la hauteur des mots qu'on prononce. On essaie de vivre tel qu'on aimerait, mais c'est difficile.
Et tu parles un peu d'engagement politique. Cet engagement-là ou cette réalité-là, elle t'est venue peut-être très tôt de l'autre grand-mère qui a une histoire particulière aussi d'exil. Donc Adèle, cette mamée, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire?
Bah, Adèle, elle était truculente d'abord. Alors, c'était quelqu'un de très joyeux, mais comme le reste de ma famille. En fait, elle avait fui, elle était réfugiée en France avec son mari, mon grand-père. Ils s'étaient mariés très tôt, très jeunes, et ils avaient quitté l'Espagne pour fuir la misère et puis la dictature aussi, qui était devenue insupportable. Alors, elle était arrivée en France. Elle avait connu une guerre civile, parce qu'elle avait 10 ans pendant la guerre civile espagnole. Et puis, elle avait connu une guerre mondiale quand même. Et le changement, c'est-à-dire le grand espoir, elle parlait quand le Front populaire est arrivé au pouvoir en Espagne, c'était vraiment une immense joie pour eux, quoi. C'était un espoir incroyable parce qu'ils pensaient que ça allait se calquer sur la France, qui, eux, avaient eu aussi leur fonds populaire juste avant, et puis avec les congés payés, avec tous ces trucs. Donc ils se sont dit, ça va être pareil ici, ça va être génial. Et de fait, ils avaient raison, parce que c'est ce qui s'est passé. Ça a été intéressant, mais pas très longtemps, quoi. Il y a un homme qui n'était pas en Espagne, d'ailleurs, qui était au Maroc en train de bousiller un peuple, et qui a dit, bah, je vais aller bousiller le mien, quoi, puisqu'il se passe un truc là-bas, je vais aller là. Pour lui, ça lui... Les notions de partage, d'égalité, de répartir les souffrances pour qu'elles soient moins lourdes pour un peuple, etc. Ça lui paraissait insupportable à ce monsieur. Donc il est arrivé au pouvoir. Donc du coup, ma grand-mère et puis toute la famille de ce côté-là, puis tous leurs amis ont fui Franco de Port, un port qui s'appelait Franco. Et ils sont venus s'installer en France.
Elle t'a raconté la réalité de ce qui vivait là-bas. Elle t'en a fait le récit.
Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. C'était en... Alors, si tu veux, ma famille parlait tout le temps de liberté. Et c'est quelque chose qu'on a toujours entendu. Elle vivait avec mon grand-oncle, son frère. Et tous les deux, c'était toujours la liberté. C'est très important. Et ils nous parlaient de ça. Alors, ça a fini par s'inscrire en nous. Ça a traverser notre fibre, si tu veux, épidermale, quoi. Ça a traversé l'épiderme et ça s'est vraiment logé dans tout, j'aime pas dire ADN parce que tout le monde dit ça maintenant, c'est dans notre ADN, mais en tous les cas, moi, c'est dans mon cœur et dans ma tête, quoi. Et c'est très présent et je m'en rendais pas compte. Donc je l'écoutais et elle racontait quand elle était petite, comment ça se passait en Espagne et comment ils vivaient de façon très humble avant le Front populaire. Et puis, après l'arrivée de Franco, ils ont connu la misère tout d'un coup. Alors, elle parlait de ça. Elle m'a dit, tu sais, tu vois ce que la volonté d'un seul homme peut faire quand c'est la peur qui dirige. Quand la peur dirige un pays, tout le monde se range du côté de la peur, du côté de la terreur. Parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes, pour les leurs, etc. Et il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais faire ça. Ne fais jamais ça, parce qu'on voit toute la souffrance que ça peut créer autour de soi. Et toute cette misère aussi. Elle me dit, on vivait de façon humble, mais on vivait. Et ensuite, après l'arrivée au pouvoir de ce dictateur, qui lui... savait ce qui était bon pour le peuple. Tu vois, il était là, il savait, il a appliqué. Ben, il y a eu la misère tout d'un coup, c'est-à-dire la confiscation des biens communs, des biens des plus pauvres. Tu vois, alors elle me racontait ça, quoi. Et elle me disait que vraiment, elle ne voulait plus jamais vivre de dictature. Ça l'avait profondément marqué. Et en même temps, comme elle était drôle, elle me racontait dans sa langue qui était très, très animée. C'était une langue poétique, tu vois, c'était de la poésie en permanence, une poésie sonore, tu vois, et puis visuelle quelque part parce que ça créait des images dans ma tête. Alors j'aimais beaucoup quand elle parlait, elle racontait à sa sauce, cette façon de sa façon à elle de voir le monde un peu, si tu veux. Donc elle me racontait quand elle était enfant en Espagne. Ce qu'elle faisait, donc il y avait par exemple un curé, elle officiait, elle faisait la messe, elle était enfant de cœur, et parce que l'Espagne reste un pays très croyant. Alors elle, je sais pas en quoi elle croyait, mais enfant, tu pouvais pas y échapper, quoi. Et ce curé, elle l'aimait pas parce qu'il était un peu douteux. Alors elle me racontait qu'elle faisait pipi dans son vin blanc, dans le vin de la messe, tu vois. Et c'est des choses. Elle faisait des trucs que moi j'aurais jamais osé faire. Et je trouvais ça génial. Je me disais, c'est pas possible, une liberté. Alors elle rigolait, elle me racontait ça. Après, il buvait le vin, il faisait la grimace, tu vois. Elle mettait de l'encre.
C'est des actes de résistance.
Ouais.
Presque.
Ah ouais, mais c'était une grande résistante. Et donc après, elle mettait de l'encre dans le bénitier, par exemple. Et elle me disait, c'était génial parce que les premiers se sont pas rendus compte. Donc ils ont trempé leurs doigts. Ils avaient de l'encre partout. Elle me dit, comme les Indiens. Tu vois, ils avaient des marques. Parce qu'après, ils ont voulu s'essuyer. Et c'était de pire en pire. Et voilà, ça la faisait beaucoup rire. Elle faisait des trucs comme ça. Elle entourait les gens avec de la laine. Donc, elle avait une pelote ou deux fils, je ne me rappelle plus. Et donc, elle avait fait un petit peu comme les ramasseurs de balles à Roland-Garros. Tu vois. J'imaginais ça comme ça quand elle me le racontait. Ils se mettaient tout autour des gens pendant la messe et ils se lançaient les pelotes comme ça. Ta, ta, ta. Et ils entouraient les gens de fils. Ils pouvaient plus, quand ils partaient, ça. Et donc, elle me racontait ça et j'étais bercé par ces histoires-là.
Incroyable. On a vraiment l'impression qu'elle t'a donné des... à vivre ou à te raconter sa vie, elle t'a donné des leçons inaugurales dans la vie extrêmement puissantes et riches. Quoi. Et...
Mais ça, tu t'en rends compte un peu après.
Oui, ça se révèle un peu
j'ai
plus
commencé,
tard.
J'ai commencé à voir qu'elle était un peu particulière quand je suis arrivé à l'école, parce que j'allais à l'école maternelle, on m'a mis en petite section, je m'en souviens très très bien, c'était un choc que je n'arrivais pas à gérer, et ça se passait pas bien. Et à chaque fin de première journée, ma grand-mère disait à ma mère, bon, écoute, je vais le garder à la maison. Donc, j'ai toujours fait qu'un jour de maternelle, un jour de petite section, un jour de moyenne section et un jour de grande section. Et ma grand-mère me gardait chez elle. Et quand je suis arrivé au CP, j'étais très heureux. Je voulais y aller parce que je commençais à apprendre à lire et à écrire. J'écrivais sur une machine à écrire. Et donc, j'étais heureux parce que je me disais, ouais, je vais apprendre la littérature. Et je croyais que j'allais apprendre des histoires fantastiques comme celles que me racontait ma grand-mère et que j'allais apprendre l'orthographe. C'était important pour moi de savoir bien écrire. Et puis non, bon, quand je suis arrivé, c'était pas ça du tout. Et là, je me suis rendu compte que ma grand-mère était un peu particulière. Je me suis rendu compte que, si tu veux, mon institutrice, je la trouvais fade. Elle était ni gentille ni méchante, d'ailleurs. À l'ancienne, un peu. Tu vois, les traits tirés. Avec un chignon et tout ça, c'était quand même la vieille école. Pour le CP, parce que les autres...
Elle ne te faisait pas rêver comme te faisait... Elle ne te faisait pas rêver, voyager comme le faisait ta grand-mère.
Pas beaucoup rêver, quoi. Donc, j'ai démarré premier de la classe un trimestre et tout le reste dernier. Je ne foutais plus rien.
Pierre, est-ce que tu peux nous lire un petit extrait d'Illettré littéraire ?
Il paraît que ton accent était dû au voyage. Et que dans ton pays d'origine, tu n'avais pas d'accent. Quel dommage. Pour moi, les grands-mères du monde entier avaient un accent. Le tien, mamie. Cette langue, formidablement espiègle et créative, avec la façon que tu avais de polir les consonnes, en les faisant rouler sous ta langue, de faire tourbillonner chaque voyelle avant de les expulser à l'air libre. Avec toi, les mots devenaient ronds, comme le monde. Et rien n'était banal. Un beefsteak se transformait en bistec, une table en table, la fourchette en forquille. Tu n'hésitais pas à tordre les mots à ton avantage, à en inventer aussi. Tes mots sont inscrits dans mes os, dans ma moelle, se sont tatoués sur ma peau. C'est la principale raison qui m'a poussé vers la poésie. Pour prolonger les moments avec toi. Quand je vois mon nom sur la couverture d'un livre, je pense à tous ceux qui m'ont précédé et à tous ceux qui succéderont. Et je leur dis à tous merci, à toi surtout.
Merci beaucoup Pierre. Tu emploies le terme de tordre les mots. On voit vraiment on a l'impression vraiment que les libertés involontaires qu'elle prenait avec la langue française ont fait naître une espèce de possibilité de créer avec les mots la poésie, quoi. Tu l'exprimes très bien, c'est la naissance un peu de la poésie, de la liberté en fait. C'est une liberté de pouvoir agencer les mots comme on veut, en inventer, en créer, faire. Et tu l'as perçu
oui,
peu plus tard que c'est né là.
Oui, oui, bien sûr.
C'est né par elle.
Ouais, ouais.
C'est incroyable.
Et puis, la voix, c'est une identité. Et les mots prononcés par cette voix, c'est un caractère, quoi. C'est une personnalité. Voilà, les mots s'incarnent et deviennent une personnalité. Et elle, c'était une grande personnalité.
Est-ce que tu as des souvenirs un petit peu récurrents avec elle, des moments forts, phares, qui sont là toujours sur ton épaule? Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-uns?
Ah oui, tous. Ah oui, tous les... Il n'y a rien qui était banal avec elle. De sa façon de s'exprimer, à ce qu'elle avait à dire, à la façon dont elle parlait aux gens aussi. Ça, c'était formidable. J'adorais comment elle parlait aux gens. Elle venait, par exemple, dans l'école primaire où j'avais été, mais là, moi, j'étais devenu grand, j'étais parti, je faisais mes études. Et un jour, j'apprends qu'elle y allait, là-bas, pour faire un atelier de couture avec les enfants, parce qu'elle faisait de la couture, de la haute couture, pour des marques. Elle était très mal payée, d'ailleurs. Ça m'a toujours étonné parce que je me disais, enfin, elle était capable de faire des choses, mais d'une finesse inouïe, parce qu'elle était vraiment extrêmement douée. Et elle était payée au lance-pierre et pas déclarée la plupart du temps, elle ne déclarait pas.
Et elle s'en plaignait, elle râlait de ça, elle luttait contre ça ?
Non, elle ne luttait pas contre ça. Non. Non, parce qu'elle était, elle était toute seule et précaire, il fallait que l'argent rentre, tu vois. Elle avait divorcé, elle n'était plus avec mon grand-père, et elle m'avait moi à charge, et puis mon frère aussi un temps, puis mon frère est parti, lui.
Toi, tu as vécu avec elle, vous habitiez ensemble.
Ouais, j'ai vécu avec elle.
À partir de quel âge ?
Ouais, ouais. De la naissance jusqu'à assez tard, mais bon, j'étais quand même... J'allais chez mes parents, quoi, quand même. Mais ils se sont séparés, j'étais très jeune. Donc, du coup, j'allais les voir, quoi, si tu veux. Mais je vivais avec ma grand-mère.
Ouais. D'accord.
Mais j'étais habituée, parce qu'en fait, en sortant de l'école, depuis tout petit, on allait chez notre grand-mère, on mangeait là. C'était à l'espagnol, si tu veux. Tout le monde, c'était des grands repas familiaux. Et puis, on rentrait après à la maison. Et quand elle me racontait qu'elle allait dans son école pour faire de la couture, je me disais, mais qu'est-ce que... Mais ça doit être mais extraordinaire pour les enfants. Je pensais aux enfants. Mais la chance, quoi. Moi, j'aurais adoré que quelqu'un comme ça vienne m'enseigner n'importe quoi, tu vois. Pourrait m'enseigner la cuisine, n'importe quoi.
Juste sur la manière d'être et d'enseigner, parler.
Ouais. Ah ouais, puis ils ont dû bien rigoler. Ils ont bien dû rigoler aussi.
Tu n'as jamais assisté à un de ces ateliers
Non, je me demandais bien ce qu'elle leur racontait, justement. Tu vois. Ma grand-mère racontait beaucoup d'histoires. Tu me demandais tout à l'heure un souvenir. Ma grand-mère racontait... Alors, elle aimait la poésie.
Oui, elle avait un lien au livre, à la lecture, à la poésie, autre que par cette façon involontaire de manier les mots.
C'était une littéraire illettrée. Elle adorait la littérature. Alors, elle s'était apprise à lire toute seule, puisque, elle a dû arrêter l'école quand Franco est arrivé. Elle a arrêté, donc... Puis elle était rentrée un peu tard, elle avait commencé à 7 ans l'école et puis à 9 ans c'était fini. Donc du coup elle n'avait pas eu le temps d'acquérir beaucoup de connaissances, mais elle avait un peu le béaba pour apprendre. Et du coup elle a appris à lire le français comme ça, elle lisait lentement mais elle lisait, je l'ai toujours vu lire. Et elle adorait la littérature, les histoires et elle-même elle en faisait. Elle nous racontait des histoires à sa sauce. Et elle avait des rituels qui étaient amusants, quoi, comme une vraie conteuse. Tu vois, elle s'installait, elle nous racontait. Et ce qu'elle racontait, c'était toujours autour de sa vie, c'était des choses vécues. Tu vois, mais à sa sauce, avec des poèmes, mais qui commençaient et se terminaient toujours pareil, parce qu'elle ne se souvenait jamais de la fin.
Mais ces histoires, ces poèmes, ils existaient que dans son oralité. Il y avait pas d'écriture.
Non.
D'accord.
Non, ils existaient que dans son oralité.
Et tu penses qu'elle les inventait sur le moment ou elle les agençait sur le moment ?
Je pense les deux. En tous les cas, elle en inventait, c'est sûr, elle nous inventait des histoires.
Et toi, tu as essayé de les déposer, de les écrire, quand tu t'en souviens de ces histoires ou c'est pas forcément un geste que tu as envie de faire ?
Non, je l'ai jamais fait. Non, et puis c'était des histoires sur le moment, tu vois. Et bon, je pourrais en parler, mais je lui ai fait plusieurs textes quand même à ma grand-mère, dont ce livre double. Et je raconte un peu sa façon littéraire d'aborder le monde. Et c'est pour ça que pour moi, la littérature, mais la poésie particulièrement, parce que la poésie, c'est la liberté, que la liberté, depuis que je suis enfant, on m'a baigné dedans en me disant que c'est important. Je crois que c'est important parce qu'on vit une époque un peu tourmentée où les libertés se restreignent un peu, quand même, tu vois, et où même il y a une forme d'autocensure, où on n'a plus besoin de nous censurer, on s'autocensure. Il y a un système aussi qui est fait où de toute façon, tu auras toujours une assaut de quelque chose qui va te tomber dessus si tu dis quelque chose. Tu vois, c'est des fois, enfin, je trouve ça à la fois très bien et à la fois, bon, j'ai toujours peur du contrôle de tous par tous, quoi. Tu vois, ce qui s'est passé pendant le Covid, je veux dire, c'était, je sais pas, une espèce de test à grande échelle où les gens contrôlaient tout le monde. Ils avaient des applis sur leur téléphone, ils contrôlaient si tu avais bien. C'était pas notre boulot à nous. On va pas se contrôler entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a toujours une vigilance à avoir sur cette liberté, sur cette quête de liberté, comme l'a eu ta grand-mère en allant chercher cette liberté ailleurs, en s'exilant pour fuir quelque chose qui l'a privé de liberté.
Oui, je crois. Oui, je crois, c'est très important. Et puis de fait, prenant conscience de tout ça assez tôt, j'ai essayé de mener une vie le plus libre possible en tous les cas, et au moins comme je l'entendais. Et de fait, donc, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai appréhendé. Tu vois, c'est une notion de liberté. Alors, la liberté absolue n'existe pas. Hein, celle, la nécessité est absolue. On est d'accord, hein, se manger, se nourrir, avoir un toit, etc. Mais quand même, il y a une liberté relative et qui est à saisir. Il faut qu'on s'en saisisse. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut jamais se laisser faire, jamais, jamais, quoi. Il faut être toujours vent debout, point debout. C'est un symbole, hein, le point debout, c'est pas avoir un point, c'est une appartenance à l'humanité. On est là et c'est ce qui fait notre humanité qui est importante. Et de fait, comme je te disais, comme c'est quelque chose que je vis, je me rends compte que j'ai raison. J'ai raison, quoi. La liberté, elle est importante. Je m'en rends compte.
Il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. On se quitte sur ces mots d'humanité et de liberté. Merci beaucoup Pierre d'être venu parler de tes grands-mères avec Albertine.
Merci Valentin.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on se quitte cette fois avec un choix musical. Nick et 3D avec Ma grand-mère, titre choisi par notre invité Pierre Soletti.
Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. Du moins, à ma connaissance, je ne vois pas s'immiscer l'ombre d'une chance ici-bas. Mais plus lointain souvenir remonte jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Du passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, fait main basse sur les mauvais. C'est malheureux, mais quand j'y pense, je ne peux pas imaginer un jour la France sans qu'elle soit là. Mais plus lointain souvenir remonte jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça.